c'est moi qui vous remercie. Mon père, c'est moi qui remercie aussi le père Xavier Dijon et tous ceux qui sont à l'origine de cette invitation, qui m'honore. Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué que j'ai un piano. D'ailleurs, je peux ajouter, vous ne devez pas le savoir, pour me consoler des embryons congelés, j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Grave Manon Tropo, Beethoven, dernier mouvement ». Alors, la musique peut faire partie aussi de ce que vous dites, un mot peut en cacher un autre, les mots ont des polysémies, des sens variés, des puissances associatives. J'espère ne pas trop vous surprendre en vous parlant ce soir beaucoup des mots d'une autre, des mots de Marie Shelley quand elle a écrit Frankenstein, mais auparavant je crois que je vous dois quelques explications. Il n'est pas très fréquent qu'une psychanalyste s'intéresse à ce qui se déroule dans le monde de la biologie et s'y intéresse de manière d'une certaine façon aussi naïve que moi. On m'a beaucoup demandé, mais qu'est-ce que vous pensez que vont faire ces enfants et qu'est-ce que c'est d'avoir deux pères, trois mères, une filiation complexe? Et je me suis toujours retirée formellement de cette question parce que les psychanalystes ne sont pas des experts, ce sont des interprètes, et que je m'efforçais de m'en tenir à la question « qu'est-il en train de se passer ?» Alors je vous dis en quelques mots pour que vous ne soyez pas trop étonnés, quelques mots de l'histoire de ce trajet. Au début des années 80, la revue Autrement préparait un numéro sur la mère et me demande un article sur la fécondation in vitro. Amandine, le premier bébé français né par fécondation in vitro, je préfère dire conçu hors du corps, venait de naître. Je prends contact avec René Friedman et avec Jacques Testard, le gynécologue et le biologiste qui était l'auteur de cette première fécondation in vitro en France. Je prends rendez-vous avec eux, je passe quelques semaines à Clamart, je vois tous les temps du traitement et je suis immédiatement coupée en deux. D'une part, d'un côté tout à fait sensible à l'émotion des couples stériles qui pouvaient concevoir un enfant grâce à un petit détour hors du corps en rassemblant les gamètes hors du corps maternel. Et puis, par ailleurs, dès que je prenais un peu de distance, psychanalyste beaucoup trop classiquement formée, peut-être, je me disais, mais si l'humanité désexualise l'origine, il se passe tout autre chose que le simple contournement des stérilités tubaires. D'autant plus que bien des couples qui étaient là n'étaient pas stériles, que par ailleurs la baisse de la fertilité masculine, on commençait à le savoir, liée aux polluants persistants, n'était l'objet d'aucune étude épidémiologique sérieuse. Enfin bon, il se passait des choses complexes. J'étais inquiète. Il me semblait que déceler l'alliance de la parentalité dans la sexualité était une affaire compliquée, obscure, que bien des mythes en avaient parlé, que le mythe de fabriquer l'humain, on le trouve, enfin comme une machine, on le trouve chez Homère. J'aurais pu lire le Golem. Je me suis dit, je vais lire des histoires qui parlent de ça. Et je suis tombée sur le roman de Marie Shelley, Frankenstein, dont je vous parle dans un instant. Et puis, quand je vous dis que j'étais inquiète et que j'entendais autre chose, comprenez pourquoi. Les gynécologues plaisantaient, j'écoutais leurs plaisanteries, j'entendais stérilité, on déclenche le plan hors sexe. Il y avait un colloque à l'INRA, l'Institut de la Recherche Agricole. Vous savez que la fécondation in vitro est un transfert des techniques qui ont fait leur preuve dans l'industrialisation de l'élevage. Il y avait des bannières qui disaient « Affranchissons-nous de la sexualité ». Voyez comme c'est étrange. Au début du XXe siècle, on voulait s'affranchir au moyen de la sexualité. À la fin du XXe siècle, il s'agissait de s'affranchir de la sexualité. Et moi, comme analyste, je me disais, mais au moyen de quelle représentation, soutenue par quel discours, par quel mot, par quel type de transmission, celle-là a-t-elle pu être vécue ? Il y avait des choses plus troubles. En 1948, un biologiste avait déclaré que il rêvait de l'ectogenèse, c'est-à-dire la sortie de l'embryon du corps maternel, qui permettrait l'amélioration de l'espèce et qui réaliserait l'heureux abandon des pratiques purement zoologiques et l'adhésion à des méthodes propres à promouvoir une humanisation encore bien imparfaite. Nous y sommes, hein, c'est le biologiste Vandel en 1948. En 80, à l'époque où j'ai commencé ces travaux, les praticiens renouaient avec ces prophéties antérieures. On allait libérer les femmes de leur attache archaïco-anachronique à la maternité. Grâce au placenta artificiel, les femmes se débarrasseraient de la charge et du poids de la grossesse. Elles n'accoucheraient plus. Ça, c'est Émile Papiernik, je l'ai entendu de mes oreilles, qui le disait. C'était le maître qui a formé René Friedman. En 63, Francis Crick, prix Nobel, déclarait « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » etc., etc. Vous voyez qu'il y avait de quoi intéresser les oreilles d'une analyste. Ne vous méprenez pas, je ne sais pas plus que quiconque où il convient de mettre des limites. Et l'autre réalité, celle des parents heureux d'avoir un enfant, existait aussi. On était là manifestement devant un mélange assez inextricable de possibilités bienfaisantes et dangereuses. Par ailleurs, je me disais, je me posais des questions telles que devient la démocratie quand le principe est fondé sur la séparation des pouvoirs, quand le pouvoir touche à la modification de l'espèce. En effet, absolument aucune génération avant la nôtre n'a eu le pouvoir de congeler sa descendance, de la stocker, d'en modifier les caractères. Je me disais, je vous fais part de l'éventail de questions qui m'assaillaient à cette date. Je me disais aussi, comment se fait-il qu'une génération de chercheurs, née pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre, qui étaient pour la plupart d'entre eux des militants antifascistes, fournissent au monde les outils de l'eugénisme au-delà des rêves hitlériens les plus fous, comme si une répétition c'était jouer d'eux. Si ce thème vous intéresse, je l'ai développé beaucoup dans mon ouvrage Ma basse sur les vivants. Bon. C'est donc dans cet état d'esprit que je lis Marie Chollet, et au même moment nous formons vous venez de l'entendre, un groupe avec Jacques Testard, Catherine Labrusse. On avait besoin des biologistes, des juristes, des biologistes pour l'information, des juristes parce qu'il y aurait une mise en forme juridique de tout ça. Et moi j'ai énormément appris de cette discipline, des psychanalystes, des philosophes, et tout ça se met en place et on travaille pendant des années. Alors je reviens à Marie Chollet. Je vous dis, je connaissais Frankenstein, j'imagine comme vous tous, par le cinéma. Je n'avais jamais lu son livre. Mais ça s'imposait à moi. Et vous connaissez l'histoire, enfin je ne sais pas si vous êtes lecteur, si vous connaissez son ouvrage ou si vous connaissez Frankenstein, par le mythe qu'elle a fondé, il s'agit de la création d'une créature au laboratoire par un savant. Je vais revenir un peu plus longuement sur ce qui le motive. Il est supposé sortir l'humanité de tous ses maux, la rendre meilleure, invulnérable, guérir les maladies, etc. Et l'affaire tourne mal. Le savant, devant sa créature, s'éloigne, horrifié par ce qu'il vient de faire, et la créature abandonnée se venge en tuant tous ceux qui sont chers au savant. Alors, je me trouve devant cette question, la question que nous étions en train de vivre naturellement, enfin pas sous la forme d'un ramassis d'organes comme dans le laboratoire de Victor Frankenstein, mais la question de la filiation confiée au laboratoire, un mythe fondé par une toute jeune femme de 18 ans, écrit au bord du lac Léman, compagne de... Elle n'était pas encore l'épouse, elle allait devenir l'épouse de Percy Shelley, amie de Byron, qui se trouvait là au moment où cette vision s'impose à elle, où elle va mettre quelques mois à la rédiger. Fille de deux philosophes, enfin son père est un philosophe célèbre, sa mère pionnière du féminisme, son père, sa mère Marie Wollstonecraft, son père William Godwin, c'est-à-dire écrivant Frankenstein et puis une œuvre, tenant son journal, énormément d'écrits à son propos par Byron, Shelley, enfin bref, je me trouvais dans une situation à peu près miraculeuse. Je croulais sous les documents qui permettaient de comprendre comment naît un mythe. D'habitude, ça se perd dans la mémoire de l'humanité, on ne sait pas comment ça a pu surgir. Et là, je me mets à essayer de m'identifier à elle et tenter de comprendre pourquoi une idée pareille lui est venue. Je vous le raconte. Première surprise, il faut peut-être avoir ça à l'esprit avant d'entendre la situation dans laquelle elle se trouve elle-même quand elle écrit son roman. Dans le roman de Marie Shelley, Frankenstein n'est pas le nom du monstre. Le monstre n'a pas de nom. Elle dit le démon, la créature, etc. Elle ne le nomme jamais, il ne reçoit pas de nom. Le Frankenstein, c'est le savant. Victor Frankenstein, c'est le savant. Et c'est probablement la réception inconsciente collective. Il y a eu un succès absolument immédiat avant même le cinéma, des pièces de théâtre, des mises en forme de toutes sortes, et c'est la réception collective qui fonde le mythe à mon sens en opérant cette collusion, la rencontre de la monstruosité et du savant. Or, elle était tout sauf une jeune fille obscurantiste. Son mari l'appelait Child of the Light, enfant des lumières, fille des lumières. Elle avait été élevée par William Godwin, un philosophe radical et athée, et c'était pas le genre à avoir peur des fantômes. C'est pas un roman gothique, le Frankenstein de Marie Shelley, pas du tout. C'est une vision prémonitoire, philosophique, d'une profondeur tout à fait étonnante. Deuxième surprise, alors première surprise, du monstrueux peut venir de la science. Vous voyez un peu le scandale au lendemain des Lumières. Deuxième surprise, le monstre n'est pas le tueur aveugle dont le cinéma a laissé la trace, il est le meurtrier de l'amour. il va être meurtrier trois fois seulement, mais absolument pas au hasard. Il va tuer d'abord le petit frère de Victor Frankenstein, de son créateur, puis son meilleur ami, puis sa fiancée. Il y a un domaine absolument passionnant que je ne peux pas développer ici avec vous, faute de temps. C'est le dialogue entre ces meurtres et la vie de Marie Shelley et ce qu'elle redoute pour elle-même. Elle a quitté, je vous le dis en quelques mots, le petit frère que le monstre assassine porte le nom du petit garçon qu'elle vient d'avoir de Shelley de manière scandaleuse et clandestine en quittant sa famille il y a 15 ans. Et on sent qu'il y a des choses qu'elle tente de conjurer, qu'elle redoute des châtiments, des choses extrêmement intéressantes. Mais on doit aller vers le transhumanisme, donc on va quitter cette dimension. Si elle vous intéresse, vous la trouverez bien sûr dans mon livre. Pourquoi cette jeune fille a-t-elle cette idée? Quelle est sa situation? Shelley fréquente la maison de son père parce qu'il a de l'estime pour le papa, pour le philosophe radical et athée Godwin. Il fait là la connaissance de Marie, de sa demi-sœur Claire Clermont. Il est marié, il a un enfant, sa femme est enceinte, il tombe amoureux de Marie et il l'enlève. Et ce tout jeune trio, parce qu'il enlève les deux jeunes filles, part rejoindre, alors pauvre comme Job, clandestin, vous imaginez, scandaleux, etc. Il part rejoindre Byron, qui vient d'être exilé en Suisse, qui vient de quitter Londres en y laissant une femme et deux enfants, la femme, son épouse et leur fille, et un enfant qu'il a de sa sœur, un enfant incestueux qu'il a de sa sœur. Il est parti se réfugier, en grand équipage, c'est Byron, à Genève, avec son ami, son compagnon et médecin homosexuel. Je ne sais pas comment vous dire, il ressemble aux communautés 68ardes. Dans leur volonté de vivre un amour, des amours qui ne seraient pas transgressifs, tout devrait marcher puisque c'est au nom de l'amour. Donc Byron a quitté. Ah oui, j'oublie de vous dire que Claire, la demi-sœur de Marie, est enceinte de Byron. Tout ce petit monde. Jeune, intelligent, cultivé, extrêmement cultivé, et là ensemble, voulant vivre des idéaux qui ressemblent à ceux de ma jeunesse. Je vous assure, à ceux de la génération de mai 68. Sous la loi de l'amour. Sauf que l'amour est sans doute le lien le plus précieux qui donne un sens à la vie, mais je ne suis pas sûre que ce soit une loi ou qu'on puisse en faire une loi, c'est une autre question. N'imaginez pas que mon discours est réactionnaire, comme on dit de nos jours. J'essaye de vous faire partager ce que vit cette jeune femme quand elle va écrire Marie Shelley, quand elle va écrire Frankenstein. Ça devrait marcher, ça devrait être le bonheur absolu. C'est pas du tout ça qui va se passer. Les liens vont se défaire. Il y aura de nombreuses morts d'enfants en bas âge. Il y aura des morts prématurées. Shelley mourra de manière pseudo-accidentelle par noyade. Et elle n'y comprend rien. Elle n'y comprend rien. Elle va le demander à la science. L'histoire de Frankenstein, à mon sens, c'est ça, c'est le déplacement de questions sur lesquelles la science n'a rien à nous dire d'autres choses ont à nous dire, naturellement, les liens, l'alliance, la filiation, les différences. Il y a pour ça la poésie, le théâtre, les sciences humaines, la théologie. Il y a mille modes de représentation de ces questions. Et Frankenstein, ça n'est rien d'autre que fabriquer un être pour le comprendre. Elle ne le dit pas, hein. Je veux dire, elle raconte, elle est très touchante parce que dans la préface à une des éditions de son livre, elle dit qu'elle a connu le désarroi de l'auteur, le vide de la créativité, et que l'inspiration ne naît pas sur le vide, mais sur le chaos. C'est emportée elle-même par toutes ces questions inconscientes et informulées qu'elle va rédiger Frankenstein. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des routards avant la lettre. Shelley voudrait... alors, j'oublie de vous dire que la femme qui a été abandonnée en Angleterre, la femme de Shelley, se suicide. Shelley est un être prodigieusement, Shelley le mari de Marie, hein, sincère. Il croit de toutes ses forces à la régénération de l'humanité par l'amour comme vertu universelle. Les interdits relèveraient de préjugés obsolètes et la science travaille au bonheur de l'humanité par le progrès des connaissances. Et en même temps, il assiste avec désespoir à la destruction de sa vie par ses amours. La question est vraiment celle du « qui suis-je » et « qui est l'autre » et pourquoi les embarras de l'altérité, du désir, de l'amour semblent régis par d'autres lois que celles auxquelles la raison permet d'accéder. Victor Frankenstein, le savant, mu par sa soif de connaissances prodigieuse, bravera les lois de la nature pour assouvir la soif de compréhension de l'énigme qu'il est à lui-même. Je vous lis quelques lignes de Marie dans le texte. Vous verrez ce qu'elle a pressenti de la puissance de ce que Freud nommera bien après elle la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire le désir de savoir, concept très précieux dans l'œuvre de Freud, sur lequel je me suis appuyée tout au long de mes travaux. Freud disait que la pulsion, il emploie le mot de pulsion, c'est-à-dire quelque chose de fort à l'oreille du corps et de l'esprit, épistémophilique, désir de savoir, qui est le produit de deux pulsions liées, voir et maîtriser, pulsion scopique et pulsion d'emprise, dont Freud disait qu'elle prend naissance chez l'enfant, par exemple à la naissance d'un enfant plus jeune, l'objet en est toujours les mystères de l'origine, mais qu'elle subit des transformations qui la rendent méconnaissable quand elle produit une création scientifique ou le plafond de la chapelle Sixtine. Mais Marie Shelley en a très bien décrit la force. Alors voilà Victor Frankenstein, le savant, qui parle. « Toutes les nuits, une fièvre lente m'oppressait et ma nervosité atteignait un degré douloureux. Je ne pouvais arracher mon esprit à mon travail, dont l'emprise sur mon imagination était irrésistible. » Il est en train de fabriquer sa créature. « Je m'arrêtais, examinant et analysant tous les détails du passage de la cause à l'effet, tels que les révèle le changement entre la vie et la mort, entre la mort et la vie. La vie et la mort m'apparaissaient comme des limites idéales que je devais d'abord franchir pour déverser sur notre monde un torrent de lumière. Une espèce nouvelle bénirait en moi son créateur et sa source. Donc elle décrit l'obsession du savant tellement puissante qu'elle finit par ne plus connaître qu'elle-même. Quelques décennies après, Claude Bernard, le fondateur de la médecine expérimentale, écrivait « Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant. C'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus le cri des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes qu'il veut découvrir. » Il semble qu'on ait affaire à quelque chose d'immémorial, qui est aussi naturellement la grandeur de l'homme, le désir de comprendre, mais dans une situation où la science, n'étant plus la science que nous connaissions, fondamentale, descriptive des mécanismes du vivant, mais devenue technoscience, c'est-à-dire immédiatement interventionniste, transformatrice du vivant, on va dans une direction où comprendre en Occident, ce serait bientôt fabriquer, nous compris. Je crois qu'il est très important pour comprendre, parce que je m'efforce d'aller vers le sujet pour lequel vous m'avez invité, suivre Frankenstein, mais pour éclairer le transhumanisme, il est très important de prendre conscience que la science n'est plus la science fondamentale. Qui pouvait, elle, en effet, être illimitée. Nous n'avons pas à redouter la connaissance, mais qui, d'une part, s'est éloignée du champ de la connaissance des lois de la nature pour tenter de s'emparer scientifiquement, ou en tout cas le croit-elle, des lois de la nôtre, et ça, c'est une autre affaire, qui en plus est devenue de manière inextricable technoscience, c'est-à-dire qu'elle intervient et qu'elle transforme, au nom d'une raison militante, dans une période de l'histoire où les grands récits religieux, politiques, qui ont fait la transmission de l'histoire des hommes tombent en désuétude, et où on peut être tenté d'adresser à la science, supposé le seul discours infalsifiable, des questions qui ne sont pas de son ressort. Alors vous voyez un lien avec technoscience, j'oublie de vous dire, défigurée aussi par son alliance avec le marché, c'est-à-dire qu'elle vit sa propre vie à cause des liens économiques, c'est impossible à méconnaître de nos jours, et peut-être qu'on pouvait penser du temps de Freud que la science était une sublimation. Quel est le statut de la technique au regard du pulsionnel? Et ça, c'est une question sur laquelle nous manquons terriblement de travaux. Pour ce qui est de l'utilisation de la science pour répondre au « qui suis-je », je vous donne un exemple. Les travaux contemporains des biologistes se sont fondés sur l'œuvre d'un physicien, Schrödinger, qui a écrit un ouvrage « What is life ?»« Qu'est-ce que la vie ?» qui ne serait preneur d'une réponse à une telle question aussi polysémique, hein, la vie biologique ou la vie quand il s'agit de la vivre. En tout cas, Schrödinger écrit dans What is Life, en exil à Dublin pendant la guerre, en 1944, la connaissance isolée qu'a obtenue un groupe de spécialistes dans un champ étroit n'a en elle-même aucune valeur d'aucune sorte, elle n'a de valeur que dans la mesure où elle contribue réellement à répondre à la question « Qui sommes-nous ?» Il avait toutes les raisons, en 44, en exil à Dublin, de se poser cette question. Alors ça m'amène à vous dire d'autres choses. J'espère que ce n'est pas trop en vrac, parce que c'est vrai que je vous le raconte comme je l'ai vécu. Ça m'amène à vous dire d'autres questions qui m'ont habité pendant ce travail. Vous avez entendu Marie Chalet décrire Victor Frankenstein obsédé par les limites que sont les frontières, que sont la naissance et la mort, les deux marques de notre finitude, n'est-ce pas, que Victor Frankenstein veut franchir. Nous avons produit ce formidable retournement au début de la vie des embryons congelés, à la fin de la vie des cadavres chauds. Ça donne la mesure, la formule est violente, pardonnez-moi, mais c'est la réalité qui l'est, c'est pas moi. Ça donne la mesure de la puissance, de la violence de l'investigation épistémophilique, évidemment chaque fois, avec un habillage thérapeutique, mais c'est toujours le cas, je veux dire, les deux réalités coexistent. On sent venir tout ça il y a quelques années, au bac de philo, les jeunes gens en France avaient reçu comme sujet, je suis bien contente de ne pas avoir été à leur place, la question « Qui sommes-nous » suppose-t-elle une réponse exacte ? Vous imaginez la difficulté, mais quand on pose une telle question, c'est que on sent que peut-être mieux vaut ne pas. Je suis très sensible aussi au fait que ce qui a été l'objet du déchaînement épistémophilique qui nous rassemble ce soir, ça a été les moments essentiels de l'expérience humaine, la naissance, la mort, la transmission avec le séquençage du génome, nommé par certains comme le livre qui nous dirait qui nous sommes. Plus d'exégèse de textes transmis, mais des sondes ADN. On a l'impression d'une gigantesque démétaphorisation de questions humaines absolument immémoriales. Vous me donnez encore une dizaine de minutes avant qu'on... 20 minutes. Merci beaucoup. Alors, à l'appui, enfin, ressemblant un peu à la préoccupation de Schrödinger, la science est là pour répondre à la question « Qui sommes-nous ?» Jean-Pierre Changeux, le grand neurologue, qui écrit dans sa préface à « L'homme neuronal »« Je veux savoir ce qu'il a dans le crâne, cet homo sapiens. » Mais ensuite, il confond le cérébral et le psychique. Et le cérébral n'est pas le psychique. L'organe ne dit pas la vérité de la psyché, même si nous avons naturellement beaucoup de choses à apprendre de l'organe. Il proposera ensuite les bases neurales de l'éthique. Vous savez qu'on est allé jusqu'au seuil du clonage après la désexualisation de l'origine. À quoi est-ce qu'on a assisté? À une sorte de véritable attaque à la filiation. En quelques années, à travers le monde, naissance de jumeaux à des années d'intervalle, dons d'ovocytes entre des sœurs jumelles, amis ou anonymes, prélèvement de matériel génétique sur un mort ou sur des fœtus non viables, contrat de location d'utérus, c'est ce qu'on appelle avec mansuétude grossesse pour autrui ou gestation pour autrui. Mais des contrats de location d'utérus, j'en ai eu entre les mains, je peux vous dire que quand on les lit, je sais pas comment vous êtes, mais moi les sucreries me font mal aux dents, ça n'a rien d'altruiste, c'est d'une violence redoutable. Grand-mère porteuse de leurs enfants et petits-enfants confondus, enceinte du matériel génétique de leur fils ou de leur belle-fille, mère porteuse de deux enfants issus de quatre géniteurs, ou au contraire, jumeaux portés par des mères porteuses différentes, société spécialisée dans la commercialisation d'embryons humains, cotée en bourse, embryons cultivés dans un utérus séparé du corps, j'en passe, ici une mère vierge, là des mères ménopausées, et pas à pas, le chemin qui va du semblable au même, du semblable à l'invraisemblable, le clonage. Il semble qu'on se soit arrêté au seuil du clonage humain, aura-t-il lieu ou pas, je l'ignore. Mais on est là au paroxysme de ce qui peut être défait dans la filiation, puisque le frère, du point de vue de l'inconscient bien sûr, hein, est le jumeau du père. La filiation ne descend plus, elle patine, elle se répète. Et une fois qu'on l'a vu, ce sont d'énormes ficelles, je veux dire, Le clonage ne résoudra pas les énigmes de l'altérité. Alors, qu'est-ce que l'homme pour l'homme ? Quels sont aujourd'hui les grands récits, dispensateurs, sinon de réponses ? Du moins de métaphores et de représentations propres à dire l'expérience humaine et qui occupe la place vide. Il me semble que la question est là et que ce déchaînement épistémophilique qui est parfaitement contemporain de cette crise de transmission qui est la nôtre, qui est postérieure au séisme que fut le XXe siècle et ces deux guerres mondiales, avec des effets de langage redoutables. J'ai entendu dire traçabilité pour filiation, dans des services dits de procréatique. Le droit maintenant, les juristes. Il y a ici, naturellement, le père Xavier Dijon et d'autres seraient bien plus compétents que moi pour en parler. Mais que s'est-il passé, à mon sens, vu de l'extérieur ? Une crise à l'intérieur une crise chez les juristes aussi. Il faut donner un statut à des enfants vivants. Et par ailleurs, les juristes ne veulent pas se montrer être taxés d'obscurantisme ou être réactionnaires. Il est aussi très vraisemblable que la haine de la loi n'épargne pas les juristes eux-mêmes et que certains se sont voulus techniciens du droit. Je vous dis le fond de ma pensée, il y a là-dedans quelque chose qui les a fait délirer, je vous en donne des exemples. Disparition des mots de père et mère dans des textes de loi, en Espagne, au Québec, remplacés par géniteurs 1 et 2. Enfin, vous imaginez combien la disparition des mots de père et mère peut résonner comme symptôme aux oreilles d'un analyste qui connaît l'ambivalence humaine vis-à-vis, dans le processus d'inscription dans la condition humaine vis-à-vis des parents, mais en général à l'adolescence ou à l'accès à la maturité, cette ambivalence disparaît pour faire place au bonheur de créer une vie différente, autonome et responsable. Là, on a l'impression d'être un condensé de haine. Vous voyez que mes questions sont tout à fait différentes de un couple homosexuel peut-il ou non élever des enfants, hein. Je suis ailleurs, je me suis volontairement tenue à l'écart de ces questions. Ma question serait plutôt à ce propos aujourd'hui. Pourquoi ne font-ils pas ce qu'ils ont toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire élever les enfants qu'ils avaient faits? Je m'efforce de me défiler des questions normatives pour me tenir dans une position d'interprète. Je voudrais, à propos du droit, vous citer, mais je vais le faire de mémoire parce que je ne vais pas le retrouver dans mes notes, un propos dans le Code civil du Québec qui déclare que quand un enfant est né d'un couple de femmes homosexuelles, les droits du père sont accordés dans le texte à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant. Vous avez bien entendu, celle des deux mères qui n'a pas donné, je ne me trompe pas, naissance à l'enfant. Quand je vous dis que ça fait délirer les juristes, les Anglais ont été jusqu'à nommer mère de leurs enfants le mari d'Elton John. Elton John, vous voyez qui c'est, le grand chanteur pop, je ne suis pas très au courant. S'est marié avec un homme, ils ont deux enfants auxquels ils ont donné des noms bibliques. J'attire votre attention, ça ne peut que vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément, cette sorte d'ambivalence. Enfin, comme s'il demandait quelque chose en même temps. Comme si quelque chose, c'est très présent dans le transhumanisme dont je vais vous parler maintenant. Quelque chose qui nargue le religieux, qui le nie et qui semble en même temps lui adresser une question ou lui demander quelque chose. Je passe au transhumanisme. Donc, la fabrication de l'homme accomplie. J'espère que vous me comprenez bien, les bébés qui sortent de services de fécondation in vitro ne sont pas des monstres. Les médecins qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour que les couples infertiles puissent procréer non plus. Ça n'implique pas de comparaison terme à terme, et pourtant on peut sentir qu'il y a un monstrueux qui se profile, qui est nettement plus visible dans le transhumanisme, j'y viens dans un instant, mais qui est aussi déjà très présent dans les textes de loi, parce que des symptômes l'humanité en a toujours eu. Dans la loi, ce sont des effets de langage et des effets normatifs, et des générations vont naître et grandir avec ce socle anthropologique transmis, qui seront-elles? Et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Pardonnez-moi, je vous parlais de ce qui me semblait être le monstrueux. Pas terme à terme, mais ce traitement gestionnaire et indifférencié du vivant. Là, enfin, je veux dire, on sent bien que cette objectivation peut nous mener dans des zones extrêmement dangereuses. Alors on peut faire l'hypothèse, le clonage en est une une très bonne illustration. On peut faire l'hypothèse que la biologie s'enlise dans une contradiction aporétique. C'est la science de la vie. Aujourd'hui, on est plutôt preneur d'une science de la vie. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui nous sommes. Et elle détruit son objet en même temps qu'elle le cherche. Elle fait ce que fait la science. Elle fabrique des objets. Quand elle le fait avec des objets, c'est très bien. Il n'y a pas l'ombre d'un problème. C'est quand il s'agit de liens, l'affaire est évidemment beaucoup, beaucoup plus compliquée. Transhumanisme. 10 minutes. Alors, je pense que dans ce séminaire, on a dû vous parler de l'histoire récente du transhumanisme, de l'apparition du mot par le frère d'Aldous Huxley et de ce que s'y déroule depuis une trentaine d'années. Mais comme fantasme, c'est probablement immémorial. En tout cas, j'en ai relevé des traces parfaitement explicites chez des penseurs des utopies des siècles précédents. Ernest Renan, c'est à la science de prendre l'œuvre au point où la nature l'a laissée. On m'a dit que vous possédez même un biais pour rendre concevable l'immortalité des individus. Ce monde supérieur que nous rêvons pour la réalisation de la raison pure n'aurait pas de femme. Tiens, tiens. La raison, dis-je, prendra un jour l'intendance de ce grand travail et après avoir organisé l'humanité, organisera Dieu. Renan était loin d'être un imbécile. Les utopistes Bacon au XVIIe, Condorcet au XVIIIe, Renan au XIXe, qui sont partis dans ce délire de toute-puissance, hein, parce que c'est quand même d'abord, d'abord tout simplement au ras des pâquerettes de la mégalomanie. Seulement, nous sommes peut-être face à des psychotiques qui ne délirent plus parce que la science leur a donné les outils de leur fantasme. Mais ce que je voulais vous dire à propos de Bacon, Renan, Condorcet et quelques autres, c'est que ce sont généralement de grands penseurs. Et j'ai remarqué, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que je n'y ai pas travaillé assez, c'est que quand le mal est sur l'humanité, pour Condorcet, c'est la terreur, pour Renan, c'est la guerre de 1870, pour Freud, dans ces moments les plus fanatique de la raison, parce que Freud sera l'un et l'autre, c'est quand le mal est à leur porte qu'il y a une sorte de mouvement désespéré pour se tourner vers la raison comme salvatrice, vers la raison scientifique, comme si elle était le seul mode de rationalité, ce qu'elle n'est pas, et comme si elle n'était pas exposée, ce que nous commençons à savoir, à délirer elle-même. Bon, il semble que nous sommes en train non plus de déchiffrer le monde pour notre plaisir et pour notre plus vif intérêt, mais de tenter de l'arraisonner pour le détruire, de le soumettre, de le transformer. Chez Bacon, ça prenait la forme suivante. Ça pourrait être un manifeste transhumaniste, prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, guérir des maladies réputées incurables, augmenter la force et l'activité, augmenter et élever le cérébral, métamorphoser un corps dans un autre, fabriquer de nouvelles espèces, transplanter une espèce dans une autre, rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition, puissance de l'imagination sur le corps ou sur le corps d'un autre. Ça, c'est la nouvelle Atlantide. Plutôt que de vous parler de choses dont probablement on vous a ou on va vous parler dans ce séminaire, je voudrais tenter de vous dire ce qu'on peut entendre d'une oreille analytique sur ce que disent et ce que veulent les transhumanistes comme symptômes. Alors, je vous ai dit, mégalomanie, en fait, à mon sens, un feuilletage de pathologie psychiatrique. La mégalomanie, bien sûr, c'est une psychose. La paranoïa, on dirait qu'ils sont persécutés par la condition humaine. La névrose obsessionnelle, par leur fascination pour le binaire et les technologies. Et quelque chose que vous devez moins connaître, ce qu'on appelle un syndrome délirant qui porte le nom de syndrome de Cotard, qui est la disparition du corps. Parce qu'il y a un moyen infaillible pour ne pas vieillir, ne pas mourir et ne pas souffrir des difficultés, des bonheurs et des difficultés du lien, c'est de ne plus avoir de corps ou d'avoir un corps complètement machinisé. Alors, à propos du corps, je vais vous lire, parce qu'il est important de l'entendre, de les entendre avec les mots qu'ils prononcent eux-mêmes. Les transhumanistes, ce sont de multiples sectes. Certains s'intéressent plus à ceci et d'autres à cela. Il y a une graine de New Age et 99% de fascination pour les NBIC, on vous l'a dit, la convergence de toutes les biotechnologies. Les cosmistes, ils sont partisans de l'homme post-biologique et invitent à laisser derrière nous le corps de viande. C'est leur propre mot. Ils écrivent « La chair est faible, mais le métal, ça, c'est du solide, et puis c'est chromé, lisse, brillant, propre et beau. Inimaginable que l'intelligence ait pu choisir cet assemblage d'eau sucrée et gélatineuse. » Je sors ça, c'est un exemple que je sors de mon dernier livre, et j'ai écrit, je me fais rire moi-même, je l'avais oublié, non seulement ils veulent notre peau, mais ils ne veulent plus de la leur. Je crois qu'on peut, s'arrêter à cette haine du corps, parce que quand le corps n'est plus dit, et Dieu sait que le christianisme sait des choses là-dessus, par les mots, les représentations, les histoires, les conflits, les apories, les renoncements, les frustrations, les adhésions, etc. Les êtres humains sont dépsychisés et le corps devient de la viande. Et ça n'est rien d'autre finalement que ce que nous ont annoncé les prophètes de la modernité, que sont Zamyatin. Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage magnifique sous Staline qui s'appelle « Nous autres » sur le bonheur mathématique. On a quand même quelques très grands penseurs, prophètes de la modernité, Zamyatin avec « Nous autres », Huxley bien sûr avec « Le meilleur des mondes », Orwell avec l'admirable travail sur le langage, qui montre qu'il n'y a pas de perversion sans manipulation du langage. Et tous nous disent, ce monde annonciateur, ruisselant de bienfaits, annonciateur, enfin d'une raison triomphante, c'est un mal absolu, n'y allez pas. Marie Shelley avait été la première. Il y en a sans doute d'autres, mais Amiatine, Huxley, Orwell l'ont fait admirablement. J'attire votre attention sur le fait, je serais absolument enchantée, Père Digeon, de m'entretenir de ça avec vous. Cette critique de la raison, ils n'ont pu le faire que sous une forme fictionnelle. Quand on attaque la raison de front, on est obscurantiste. On peut renoncer à notre raison, et en même temps, il semble bien que quand elle est toute seule et séparée du travail de culture qui est fait d'une multitude d'autres choses qu'elle-même, eh ben, elle devient folle et nous en sommes là. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais... Ah oui, encore un petit mot sur les cosmistes. Ah oui, non, alors, d'autres qui s'appellent les mutants, excusez-moi, c'est pas, je me suis trompée, c'est pas les cosmistes, d'autres s'appellent les mutants. Eux écrivent « Au connais-toi toi-même de la sagesse antique, se joint désormais un nouvel impératif, conçois-toi toi-même. » Le « connais-toi toi-même » qui, évidemment, gravé au fronton du temple de Delphes, hein, passait par la question de l'altérité, vient se cogner contre un fantasme d'auto-engendrement absolument vide de tout sens. Ces fanatiques de la raison sont complètement sourds à la polysémie et à l'inconscient. Leur texte s'appelle « Voici une tragédie en trois actes pour la bête inquiète ». Il y a souvent cette dimension dans la perversion, hein, de narguer. Ils ne s'entendent pas délirer et des affaires de soupe fonctionnelle, c'est-à-dire de je ne sais quelle rêverie digitale portée à son comble, se termine en fécondation cosmique. Dès qu'on a un peu d'oreille, on entend bien que si la fécondation est cosmique, c'est que l'affaire est sexuelle. Et que l'affaire sexuelle, complexe dans l'histoire de l'humanité, Freud l'a assez énoncé, ayant besoin de discours, de représentations, d'être nommé, d'être élaboré, psychisé, sinon se démétaphorise en fécondation cosmique ou en un grand tout de jouissance qui n'a ni commencement ni fin. Mais ce sur quoi je voudrais conclure, mais vraiment comme une question que je vous adresse parce que c'en est une pour moi et que je suis tellement intéressée et touchée d'être invitée dans un institut de théologie, c'est qu'il n'arrête pas de parler de Dieu. Dans les principes extropiens, qui était une forme primaire des déclarations transhumanistes, qu'ils ont plus ou moins auto-censurées parce que c'était quand même un peu dur à avaler, ils ne parlent que de Dieu. Pour dire leur refus d'une autorité religieuse externe, personne ne leur conteste, on a l'impression qu'ils se battent avec le Dieu, un Dieu fantasmé, interducteur, persécuteur de pulsions, que sais-je. Mais les mots qu'ils emploient, ils affirment leur foi en la raison, le progrès, ils proclament le credo transhumaniste, combiné à la pensée critique et créative, ils soutiennent des principes libérés des dogmes, ils cherchent à éviter les croyances, ils refusent l'infaillibilité, ils n'acceptent pas les révélations. Ils opposent l'optimisme rationnel à la foi aveugle et refusent la volonté de Dieu. Je vous les cite dans le texte. Ma question est la suivante. Ma prière, parce que moi je vais m'y mettre aussi, est la suivante. Alors évidemment, on peut penser rivalité avec la toute-puissance de Dieu, opposition, affirmation d'athéisme, que sais-je. Mais on peut aussi penser, enfin, si j'écoute ça comme j'écoute un patient qui ne parle que d'une chose tout le temps pour me dire comment il est contre, et ben je me dis, il lui demande quelque chose. Donc, je vous quitte sur cette question ouverte et je vous remercie de faire de la théologie.